Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié à l'origine en 1928 et condensé ici en un volume, La loi du succès en 16 brèves leçons expose la philosophie de la réussite élaborée par Napoléon Hill avant Réfléchissez et devenez riche. Cet ouvrage de développement personnel propose un système composé de 16 principes destinés à orienter la pensée, le travail et les relations vers des objectifs définis. Il présente le succès comme une construction volontaire plutôt que comme le produit de la chance ou du seul talent. Sa méthode repose notamment sur la clarté du but, la confiance entraînée, la maîtrise des réactions, la création d'habitudes utiles et la coopération organisée. Le livre s'inscrit dans le courant américain de la pensée positive du début du XXe siècle et emploie parfois un vocabulaire daté ou des explications spéculatives sur le mental. Sa portée pratique réside néanmoins dans l'articulation entre dispositions intérieures et comportements observables. Cette édition compacte vise à rendre accessibles les fondements d'un vaste programme initialement publié en plusieurs volumes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un objectif principal précis comme point d'organisation des efforts. Le point de départ de la méthode de Hill est la définition d'un objectif principal clair. Il ne s'agit pas simplement de formuler un souhait, mais de choisir une direction suffisamment précise pour guider des décisions quotidiennes. Sans ce repère, l'énergie, le temps et les occasions risquent d'être dispersés entre des projets incompatibles ou des réactions aux urgences du moment. L'objectif joue donc une fonction d'organisation. Il permet de distinguer ce qui contribue réellement à une ambition de ce qui n'est qu'activité secondaire. Il relie cette clarté à la persévérance, car une personne sait plus facilement pourquoi elle accepte un effort, un délai ou un revers lorsqu'elle a défini ce qu'elle cherche à construire. Le livre invite également à traduire l'intention en plan d'action, même révisable. Cette dimension importe davantage que la promesse d'une pensée toute puissante. Dans une lecture contemporaine, l'intérêt du principe tient à son usage comme discipline de priorisation. Écrire un but, identifier les compétences nécessaires, prévoir des étapes et réexaminer les résultats rend l'ambition vérifiable. La limite est que la précision ne garantit pas le résultat dans des contextes soumis à l'incertitude. Elle améliore surtout la cohérence entre les choix, les ressources disponibles et l'effort fourni. Deuxièmement, autosuggestion et confiance en soi face aux 6 peurs fondamentales. Hill considère la peur comme un frein majeur à l'initiative. Il regroupe ses formes les plus courantes autour de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la vieillesse, de la perte de l'amour et de la mort. Cette classification reflète le cadre moral et culturel de son époque, mais elle souligne une idée toujours utile, les anticipations négatives peuvent entraîner l'évitement, l'hésitation et l'abandon prématuré. Pour y répondre, l'auteur recommande l'autosuggestion, c'est-à-dire la répétition volontaire de pensées liées à ses capacités, à son objectif et à une conduite constructive. Il suppose que cette répétition influence progressivement les habitudes mentales et les actions. Une interprétation prudente consiste à y voir un outil d'attention et de préparation, plutôt qu'une garantie que le désir modifie directement la réalité. Répéter un engagement peut aider à maintenir un cap, à repérer les pensées dévalorisantes et à préparer des réponses plus utiles devant une difficulté. La confiance, selon Hill, ne se réduit pas à l'affirmation de soi. Elle est associée à la responsabilité, à l'honnêteté envers autrui et à la volonté de servir. L'exercice devient plus solide lorsqu'il s'accompagne de preuves concrètes d'apprentissage, préparation, suivi des progrès et confrontation réaliste aux risques. Ainsi, le livre propose moins d'éliminer toute peur que de ne pas lui abandonner la direction de la conduite. Troisièmement, la maîtrise de soi transforme les émotions en conduite délibérée. La maîtrise de soi occupe une place centrale dans les leçons de Hill parce qu'elle relie l'intention au acte. L'auteur affirme que contrôler ses réactions revient d'abord à surveiller ce qui nourrit la pensée suggestion négative, ressentiment, impulsivité ou découragement. L'enjeu n'est pas de nier les émotions, mais d'éviter qu'elles déterminent seules une décision, une parole ou une relation professionnelle. Hill accorde notamment une valeur élevée à l'enthousiasme, tout en avertissant implicitement qu'une énergie non disciplinée peut conduire à des comportements imprudents ou agressifs. Cette idée donne à son approche une dimension relationnelle. Une réponse brusque peut endommager une réputation, fermer une négociation ou fragiliser une coopération, tandis qu'un jugement différé permet de choisir une action plus efficace. Pour appliquer ce principe, le lecteur peut créer un temps de pause avant une décision importante, identifier les déclencheurs récurrents et examiner les conséquences de ses réactions sur ses objectifs. La maîtrise de soi est donc pas présentée comme une simple vertu privée, elle devient un capital de fiabilité. L'aspect le plus durable de cette leçon est son insistance sur le lien entre attention, langage et réputation. En revanche, elle demande à être complétée par une reconnaissance des contraintes réelles et par des méthodes adaptées lorsque l'anxiété ou la détresse dépassent le champ de l'autodiscipline. Quatrièmement, rendre davantage de valeur pour développer compétences et réputation. L'habitude de faire plus que ce pour quoi on est payé est l'un des principes les plus caractéristiques de l'ouvrage. Il ne la présente pas seulement comme une invitation à travailler davantage. Elle désigne une stratégie de création de valeur, approfondir une tâche, anticiper un besoin, améliorer la qualité d'un service et développer des compétences qui dépassent la description minimale d'un poste. Selon sa logique, cet effort additionnel favorise l'apprentissage, rend le travail plus visible et construit une réputation de fiabilité susceptible d'ouvrir des occasions futures. Il parle ainsi d'une loi des rendements croissants, selon laquelle la valeur offerte peut revenir sous forme de confiance, de responsabilité, de relation ou des rémunérations. Cette thèse mérite toutefois une application nuancée. Donner plus en limite peut alimenter la surcharge ou laisser prospérer des organisations qui ne reconnaissent pas l'effort. La leçon devient constructive lorsqu'elle est associée à des frontières claires, à l'acquisition d'un savoir identifiable et à une évaluation de la réciprocité. Le lecteur peut se demander quelle contribution supplémentaire renforce réellement son expertise, plutôt que de multiplier les heures invisibles. L'apport spécifique de Hill est de déplacer le regard du salaire immédiat vers la valeur accumulée par la qualité du travail. Cette perspective aide à penser une carrière comme un processus de développement sans justifier pour autant le sacrifice systématique de ses intérêts ou de sa santé. En dernier lieu, coopération organisée et principe du mastermind, la réussite chez Hill ne repose pas exclusivement sur la volonté individuelle. La coopération constitue un principe distinct, fondé sur l'idée que des personnes aux compétences complémentaires peuvent produire davantage lorsqu'elles coordonnent leurs efforts autour d'un but commun. Hill désigne cette alliance organisée par le terme mastermind. Derrière la formulation parfois mystique, on peut retenir un mécanisme concret. Un groupe gagne en efficacité lorsqu'il partage une direction, échange des informations utiles, répartit les responsabilités et maintient un climat de confiance. Le principe corrige l'individualisme qui peut découler de certains discours sur le développement personnel. Les objectifs ambitieux exigent souvent des partenaires, des mentors, des collaborateurs ou des réseaux capables de fournir un regard critique et des ressources différentes. Hill insiste aussi sur l'harmonie, car la simple réunion de talents ne suffit pas. Des rivalités non traitées, des objectifs flous ou l'absence de décisions communes peuvent annuler le bénéfice de la diversité. Dans une application actuelle, un groupe de pairs fonctionne mieux avec des engagements explicites, des réunions ciblées, des retours honnêtes et des responsabilités traçables. La valeur de cette leçon tient à son réalisme organisationnel. La motivation personnelle devient plus durable lorsqu'elle est soutenue par des structures collectives. Sa limite est de ne pas détailler les rapports de pouvoir ou les conflits d'intérêts qui traversent les équipes réelles, sujet que le lecteur doit examiner par lui-même. En conclusion, la loi du succès en 16 brèves leçons s'adresse surtout aux lecteurs qui souhaitent disposer d'un cadre classique pour examiner leurs objectifs, leurs habitudes de travail et leurs modes de relation. Il conviendra aux personnes attirées par l'histoire du développement personnel, aux entrepreneurs débutants et à ceux qui cherchent des exercices simples de clarification, de discipline et de coopération. Son bénéfice pratique ne vient pas d'une formule automatique de réussite, mais de questions récurrentes et utiles. Quel but organise mes choix? Quelle peur influence mes décisions? Quelles valeurs concrètes puis-je apporter? Et avec qui puis-je mieux travailler? Sur le plan intellectuel, le livre permet aussi de comprendre l'origine de nombreuses idées reprises ensuite dans la littérature de la pensée positive, notamment l'objectif défini, l'autosuggestion et le réseau de collaboration. Il se distingue de nombreux guides contemporains par son ambition systémique. Au lieu de réduire le progrès personnel à une technique isolée, il relie attitude mentale, contrôle émotionnel, qualité du travail, planification et action collective dans un même ensemble. Cette cohérence explique sa place durable dans le genre. Le lecteur gagnera cependant à l'aborder avec discernement les affirmations sur le pouvoir de la pensée et les généralités sur la récompense de l'effort ne remplacent ni l'analyse, des conditions sociales, ni des compétences concrètes, ni une aide professionnelle lorsque nécessaire. Lu comme une grille de réflexion et non comme une promesse, cet ouvrage conserve une réelle utilité structurante. Si vous souhaitez soutenir Napoleon Hill, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.